Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatch, le ravi Radio Grenouille, une émission animée par Michel Guéraud et Rafi Amal, et avec nous aujourd'hui le député UMP de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône et membre de la Commission nationale d'investiture de l'UMP, Christian Kerp. Bonjour.
Bonjour.
Une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Jean-François Copé est un magicien. Alors qu'il pointe toujours au dernier rang des personnalités politiques préférées des Français, il a enfin trouvé la martingale pour diriger l'UMP, multiplier les nominations. En janvier, une vingtaine de personnes ont été dotées de fonctions exécutives, en février, une trentaine, parions donc sur une quarantaine de nominations en mars et une cinquantaine en avril. En attendant, vous voilà donc l'un des 18 vice-présidents du parti. En ce qui vous concerne, cette promotion n'est pas volée. Copé a lu votre bouquin « Nostradamus, le mage de salon ». Il compte donc sur vous pour répondre aux questions qui font palpiter la France. Y aura-t-il des élections internes à l'UMP à la rentrée? Fillon sera-t-il candidat? Copé sera-t-il reconduit président? Ne verra-t-on jamais plus Nicolas Sarkozy? Vous êtes né à Salon de Provence il y a 66 ans, dans la ville où une statue de Nostradamus, sculptée par votre grand-père, trône sur une place. Après des études de criminologie, oui, à Aix-en-Provence, c'est une compétence d'ailleurs qui a séduit Copé, vous vous lancez dans le journalisme. Personne n'est parfait, dirait Bernard Tapie. Vous voilà, jeune rédacteur en chef de l'hebdo local, le régional, d'inspiration démocrate chrétien. Bref, le crime, la presse et la foi vous conduisent à l'irréparable. Vous entrez en politique et au conseil municipal de Salon à 31 ans en 77 sous la bannière centriste. À 37 ans, vous êtes déjà premier adjoint du maire CDS, le centre des démocrates sociaux. Résumons votre parcours riche en péripéties. Il était écrit dans les astres que vous ne seriez pas maire de Salon de Provence. Votre tentative en 2001 se solde par un échec. Il était écrit que vous seriez un député indéboulonnable. Vous siégez à l'Assemblée nationale depuis 88. Même la dernière vague rose et un redécoupage vous contraignant à vous éloigner de Salon vers Aix-en-Provence n'ont pas fait obstacle à votre réélection. Vos centres d'intérêt, citons-en quelques-uns au cours d'un quart de siècle au Parlement. Les médias et la télévision, la culture et l'intermittence, les rapatriés et les harkis, sans oublier Nostradamus oblige et les catastrophes naturelles. Vice-président, c'est une manie du groupe UMP à l'Assemblée nationale, vous animez auprès de Pierre Méhaignory, enfin autrefois puisqu'il est parti ailleurs, l'aile humaniste du parti. Mais je fais la prophétie que si vous ne droitisez pas Fissa votre discours, vous allez finir aux marges de votre famille politique. Alors, vive Copé, à bas le mariage pour tous et que la conjonction des corps célestes vous porte chance.
Christian Kerp, un commentaire sur ce portrait à la sauce ravie?
Oui, écoutez, il est assez fidèle, il ne me déplaît pas. Bon, je tiens à préciser que le fait d'avoir été désigné vice-président de l'UMP ne m'a pas ému outre mesure. C'est-à-dire que c'est dans le chemin normal politique. Pour le reste, comme on a beaucoup parlé de Copé dans ce portrait, c'est vrai qu'il a lu mon livre sur Nostradamus, parce que je lui ai offert. Sinon, il en aurait ignoré jusqu'à l'existence.
Nostradamus, sources d'inspiration pour vous ?
Non, le personnage m'intéresse parce que cette façon, au temps de la Renaissance, quelqu'un qui est médecin au temps de la Renaissance et qui ignore d'ailleurs que c'est déjà le temps de la Renaissance et qui prophétise pour les années à venir, et au 21e siècle, on continue à lire et à croire en Nostradamus. Bon, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Bon, nous sommes concitoyens puisqu'il était à Salon de Provence, que mon grand-père, comme notre ami le rappelait, a taillé une belle statue de Nostradamus qui trônait sous les fenêtres de mon cabinet parlementaire lorsque j'étais député de Salon. Tout ça mérite des petits détours intéressants. Sur Jean-François Copé, puisqu'on en a parlé dans ce portrait, qu'est-ce que je fais avec Jean-François Copé, moi qui suis un centriste au sein de l'UMP?
C'est la question qu'on allait vous poser.
Voilà, alors je le pensais bien. Eh bien, écoutez, quand il a fallu voter pour un président de l'UMP, entre Jean-François Copé et François Fillon, j'ai estimé que c'était Jean-François Copé qui avait fait quand même le boulot au sein du parti. Alors vous allez me dire, il a fait le boulot, mais on a perdu les présidentielles, on a perdu les législatives. Bon, c'était, me semble-t-il, inscrit à un moment de l'existence de la République. Le président a fait l'objet d'un désamour. Nicolas Sarkozy a fait l'objet d'un désamour. Et donc on a, j'allais dire, quasi logiquement perdu cette élection présidentielle, encore que nous l'ayons perdue avec beaucoup moins d'écart qu'on ne nous l'avait prophétisé. Mais enfin, nous la perdons. Moi, j'ai considéré que Jean-François Copé faisait bien le boulot, qu'il le faisait correctement et qu'il le faisait courageusement. Et là, on ne cherchait pas à désigner le futur président de la République, on cherchait un patron pour l'UMP. Il m'a semblé que c'était l'homme de la situation. Voilà pourquoi je me suis rangé à ses côtés. Mais je tiens à faire vivre cette aile humaniste que vous avez qualifiée au sein de l'UMP. Voilà pourquoi Pierre Méhaneri, n'étant plus député d'ailleurs et étant parti à l'UDI, je continue avec Marc-Philippe Daubresse et une sénatrice Fabienne Keller à animer cette aile humaniste. Alors vous allez me dire, vous voyez toutes les semaines, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que vous faites, vous êtes entre vous. Oui, bien sûr. Mais en attendant, lorsque de temps en temps il faut au sein de l'UMP et singulièrement au sein du groupe parlementaire, il faut un peu corriger le tir sur la droitisation, on compte sur nous les humanistes. Alors, pour apporter un petit témoignage.
Christian Kert, vous avez évoqué de manière assez rapide, bien entendu, vous pensez bien qu'on va revenir sur l'agitation de la famille UMP. On a fait mention tout à l'heure de votre promotion, 20 vice-présidents, 11 secrétaires généraux adjoints, c'est une neutralisation des uns et des autres et une paralysée de l'appareil, ça ?
Non, je ne crois pas que ce soit une neutralisation. C'est une mise en commun de deux équipes. Il fallait bien en sortir. Sinon, on continuait la guerre. Bon, très bien. Alors, Jean-François Copé et François Fillon se sont entendus. Bon, bien entendu, comme il peut toujours, ça et là, rester un climat de suspicion, ils ont pensé l'un et l'autre qu'il fallait faire une parité dans la représentation des instances. Une parité, seulement, ça veut dire deux fois deux, ça veut dire deux équipes au lieu d'une. Ça veut dire qu'au lieu d'être 10 vice-présidents comme par le passé, on est 20, 10 de chaque côté, et c'est vrai à tous les étages de la boutique.
Les mauvaises langues disent qu'il y aura bientôt plus de vice-présidents que de militants à l'UMP, c'est vrai ?
Non, alors ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai parce que, étrangement, alors que j'aurais pensé le contraire, nous continuons à voir arriver dans nos permanences de nouveaux adhérents de l'UMP. Nouveaux, c'est-à-dire des gens qui ne s'étaient pas engagés jusqu'à présent.
Vous avez des chiffres ?
Et qui le font. Non, j'ai pas de chiffres et donc je veux pas en avancer parce que je n'aurai aucune certitude. Mais je peux vous dire qu'au niveau national, on me le dit, que beaucoup de mes collègues parlementaires me le disent et que moi-même, je le vérifie à Aix. Alors attention, je vous dis pas que tous les lundis matins, il y a la queue pour venir acheter à mon cabinet parlementaire, pour venir acheter la carte de l'UMP. Mais je vois arriver des nouveaux adhérents qui viennent avec une philosophie générale, c'est-à-dire: écoutez, on a été désolé de la défaite de Nicolas Sarkozy, on n'était pas adhérent à l'époque, mais là maintenant il nous semble que les socialistes vont trop loin dans la destruction de ce qui s'est fait, et donc on veut apporter notre pierre à l'édifice.
Finalement, quand on lit le portrait de Michel Guéraud, votre parcours politique, vos idées, vos adhésions, on se pose la question, est-ce que finalement l'UDI de Borloo ne serait pas une maison beaucoup plus accueillante pour vous que l'UMP ?
Elle serait sûrement plus centriste que l'UMP, si c'est ce que vous voulez dire, c'est incontestable. Mais moi j'ai un petit problème avec l'UDI, c'est que je sais comment elle s'est formée. Elle s'est formée en rassemblant des petits partis centristes qui, à l'origine, ne s'entendaient pas entre eux et qui donc se déchiraient un peu le manteau du centrisme en France. Et bon, j'ai considéré que pour l'instant, le socle solide de l'opposition, c'était l'UMP. Si demain, un grand leader, car le centre a besoin d'un grand visage, un grand leader se définissait et que une sorte d'enthousiasme centriste nouveau qui est à refaire, qui est à reconstruire, se levait, je participerais à ce mouvement-là. Mais pour l'instant, la France a besoin d'une opposition forte, je la trouve pour l'instant. Je la trouve à l'UMP, mais une UMP que je ne veux pas voir se droitiser à l'extrême.
Un choix plus pragmatique que choix de cœur, donc ?
C'est sûrement du pragmatisme, oui. Bon, mon cœur reste tout à fait centriste. J'étais étudiant et je portais déjà à la fac de droit l'image centriste, donc je l'ai dans mon ADN, mais encore faut-il, c'est une grande difficulté d'être centriste en France, parce que tout le monde se dit centriste, mais au moment de voter, on vote ou à droite ou à gauche, et le centre reste sur le tapis, et donc moi j'ai pas envie de rester éternellement sur le tapis.
Alors une question, vous avez expliqué que Copé était un bonhomme d'appareil, finalement, que c'était pour ça que vous l'aviez choisi, mais un parti c'est un appareil, effectivement, des élections, de la cuisine électorale, mais c'est aussi des idées. Et à ce niveau-là, est-ce qu'un Fillon, est-ce qu'il incarne, ne correspond pas plus à vos idées ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction à se ranger derrière celui qui finalement a accompagné cette droitisation dont vous parlez ?
Oui, il y a... J'ai tout à fait conscience de ça, c'est-à-dire
qu'il a même devancé dans certains cas.
J'ai tout à fait conscience de ça. Bon, François Fillon incarne une idée plus centriste que celle de l'UMP, tout en étant lui-même UMP. Mais pour l'instant, je n'ai pas entendu François Fillon faire lever un vrai courant centriste dans le pays. Il y a des gens qui sont des fillonistes, parce qu'ils suivent cet homme qui a très bien réussi comme Premier ministre, parce que ça ne devait pas être facile tous les jours d'être le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Il a plutôt bien réussi, mais pour l'instant, il n'a pas fait lever une grande idée centriste, une grande équipe centriste. Je vous rappelle juste que son directeur de campagne au sein de l'UMP, c'était monsieur Éric Ciotti, qui ne passe pas pour être le centriste idéal tel que Pierre Ménery l'aurait rêvé. Et donc, j'ai conservé cette distance avec une équipe dont, pour l'instant, je ne peux pas dire qu'elle se soit révélée très centriste. Néanmoins, j'invite cette semaine Nathalie Kosciusko-Morizet, qui s'était plutôt rapprochée de François Fillon. Je l'invite à venir dialoguer avec mes militants pour faire le point sur cette actualité-là.
Alors, oublions un peu Copé, Juppé. Sur le fond, la défaite de la droite, elle s'explique pour vous parce que la droite s'est radicalisée, a perdu l'engage avec le centre, a trop voulu courir après l'électorat que capte le Front National, et donc la droite doit corriger ce défaut-là, ou alors non, elle doit, cette droite, être à l'écoute de cet électorat qui est séduit par une Marine Le Pen. Quelle est votre réponse là-dessus ?
Je crois qu'on a fait un mauvais procès à Nicolas Sarkozy lorsqu'il a droitisé sa campagne, parce que je crois, et j'allais dire hélas, mais je crois qu'au moment des élections présidentielles, le candidat de droite devait se situer très clairement à droite. On sentait dans le pays, sur les problèmes d'immigration, sur les problèmes économiques, sur les problèmes d'insécurité, on sentait une aspiration à quelque chose, à des propos qui devaient être forts. Je crois que l'inquiétude de notre société, qui est une belle société, mais une société anxiogène, cette inquiétude-là, elle apparaît au moment des élections. À ce moment-là, je crois que Nicolas Sarkozy a eu raison. Je pense qu'il aurait plus perdu s'il avait quitté ce chemin-là que s'il avait cherché à en prendre.
Du point de vue de la cuisine électorale, peut-être, mais est-ce que le rôle d'un chef d'État, d'un chef de gouvernement, d'un élu, d'un parti, c'est pas parfois de savoir aller à contre-courant de l'opinion politique quand elle va pas dans le sens...
Oui, mais le devoir d'un candidat, s'il veut, c'est de devenir le président. Ou de le rester dans le cas précis. Et bon... il y avait, je le disais tout à l'heure, une sorte de désamour à l'égard de Nicolas Sarkozy. Sur le plan des idées, je crois qu'il a défendu un sentiment général que ressentait notre population, à savoir, on donne le sentiment d'une impuissance, on ne peut pas lutter contre la mondialisation, etc. Il faut aller plus vite, peut-être un peu plus fort, peut-être un peu plus durement. Je le regrette en tant que centriste, mais j'ai bien conscience, lorsque j'ai face à moi des concitoyens, j'ai bien conscience qu'ils attendent de nous, aujourd'hui l'opposition, ils attendent de nous des mots forts, des positions extrêmement claires, et puis ils attendent une forme d'ordre dans notre société qu'ils ne trouvent plus, qu'ils ne trouvaient déjà plus avec nous en fin de mandat, et que là, bien entendu, ils ne trouvent plus avec la nouvelle majorité.
Enfin, quand on voit la carte électorale pour les électeurs de l'UMP, les élus, les électeurs de l'UMP, on se retrouve quand même avec une France coupée en deux, à l'ouest, des gens qui n'ont pas voté pour Nicolas Sarkozy, ou pas forcément, qui sont plutôt centristes, à droite, et au sud-est, des gens qui ont voté pour la ligne, pour les très vite pour la ligne Buisson et la radicalisation au sein de l'UMP. Le problème est toujours là, 8 mois, 9 mois après l'élection présidentielle, on en est toujours à cette cassure.
Vous savez, la grande inquiétude des élections à venir, ça va être, et tous les sondages le montrent, ça va être la puissance ou pas du Front National. Et moi, je crois que chaque fois que la nouvelle majorité prend des dispositions destinées à casser un peu ce que nous avons pu faire, à alléger un certain nombre de dispositifs sur les multirécidivistes, etc., c'est pas nous qu'on fait monter, hein, c'est le Front National. Et donc, je crois aujourd'hui que l'UMP doit, et là, à cet égard, je crois qu'on peut rendre hommage à Jean-François Copé qui a dit rien avec le Front National, mais si on veut se payer ce luxe-là, qui est essentiel pour moi d'ailleurs, de ne jamais rien traiter avec le Front National, il faut quand même occuper quelque part l'espace qui est celui d'une droite réaliste, d'une droite qu'on peut qualifier de populaire. Il faut que certains d'entre nous acceptent de l'incarner.
Là, vous venez de prononcer le mot, mais effectivement, aux élections, fameuses élections contestées à l'UMP, il y a eu un vote sur les motions, et là, la droite populaire et la droite forte, qui incarne donc cette aile radicalisée, a rassemblé beaucoup, beaucoup de voix. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est 40% des militants qui sont allés vers cette droite-là, et on sait que les militants aspirent, trouvent normal, possible, désirent même parfois clairement des alliances avec l'extrême droite. Qu'est-ce que vous faites, centriste, dans ce mouvement-là? Comment vous vous adressez à vos
j'apporte ma voix
à vos camarades?
Bien sûr, j'apporte ma voix. C'est-à-dire que, bien sûr que, même dans ma circonscription, j'entends cela. Je vous rappelle juste que dans ma circonscription, j'ai deux communes gérées par des municipalités de gauche, les Pins-de-Mirabeau et Septèmes-les-Vallons, des municipalités de gauche où le Front National dépasse 30%. C'est une interrogation pour moi quand même. Bien. Donc j'entends tout ça. Mais ce que j'apporte, moi, à l'UMP, et singulièrement dans ce département, parce que des centristes dans ce département, il n'y en a pas beaucoup, dans ce département, j'apporte cette voix-là en disant « oui ». On doit comprendre ces gens qui ont besoin de se référer à une droite classique mais forte. Et à côté de ça, il y a une droite humaniste qui doit vivre, qui doit faire vibrer une autre corde sensible au sein de l'UMP. Moi, c'est ce que je veux incarner.
Christian Kert, elle est où la limite finalement? Pas d'alliance avec le Front National, c'est une chose, mais adoptons le logiciel du Front National, adoptons le vocabulaire du Front National. On se souvient tous de la phrase « des pains au chocolat » de Jean-François Copé.
Oui, le pain au chocolat, c'était une affaire vécue. Alors on peut le reprocher dans le contexte de l'avoir sorti. Non, vous savez, c'est relativement simple. Moi, je combats le Front National. Je suis à l'origine du combat du Front National dans ce département, puisque le premier conseiller général de France Front National, ça a été dans mon ancienne circonscription, dans la 11e circonscription, Philippe Adam, conseiller général du canton Salon-Grance. Bien, donc je connais. Nous combattons depuis longtemps. Je crois que les choses doivent être claires. Et pour quelqu'un comme moi, c'est peut-être plus facile. Moi, il n'y a rien qui peut se passer entre un parti politique qui prône la défiance, la haine entre les êtres. Pour moi, un être, c'est essentiel, ça. Pour moi, un être, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, sa religion, ça égale un autre être, où qu'il vive. Et ça, on ne peut pas me l'empêcher, ça fait partie de l'ADN humaniste. Et donc, le Front National ne peut pas tenir ce type de discours, je ne peux pas tenir le sien. Bon, j'essaie de faire en sorte qu'un certain nombre de mes collègues, de mes amis, qui seraient tentés en disant « écoutez, il y a là un gisement de voix, il faut aller les capter, etc. », je crois qu'il faut que eux-mêmes, même s'il y a cette tentation, se méfient de cela, parce que ce serait de toute façon faire perdre l'identité à l'UMP et même pas gagner des élections. Et donc je crois qu'il faut être très ferme là-dessus. Bon, il y a des électeurs du Front National, c'est un parti reconnu, je le combats comme je combats aujourd'hui la gauche, parce que c'est pas les valeurs sur lesquelles je fonde mon engagement politique.
Alors François Fillon, qui est adepte de la stratégie de la parole rare, a dévoilé qu'il avait pour la France un projet, en l'occurrence 2017, avec, on revient aux cuisines internes, des primaires en 2016 pour désigner le candidat de l'UMP. Vous, Christian Kert, vous pensez que ceux qui ont transformé l'UMP en parc d'attractions ont encore une légitimité pour 2017? Je pense à Copé et Fillon.
C'est à la fois compliqué et ça se résoudra sûrement relativement simplement. C'est compliqué parce que nous avions affaire, au moment des élections de l'UMP, aux deux seuls candidats qui pouvaient prétendre à ce moment-là aller à l'Élysée si Nicolas Sarkozy décide de ne pas y retenter sa chance. Et donc, nous avions engagé un combat qui allait nous mener dans la difficulté. C'était écrit. Bon, bien sûr, les deux hommes ont failli parce que cette communication a été vraiment très très mal menée par des entourages qui ont probablement poussé à déserrement. Bon, tout ça va se reconstruire. Bien, moi je crois que les primaires, il faudra surtout pas qu'elles soient cantonnées aux deux mêmes. Et donc je pense qu'il faut que ce soit des primaires très ouverte, et qu'il y ait des hommes et des femmes, qu'il y ait des gens de terrain comme il y ait de grands élus nationaux. Bon, là, il faut reconnaître une chose, c'est que le Parti Socialiste a donné l'exemple avec ses primaires. Je crois qu'il faut que ce soit quelque chose d'extrêmement ouvert.
Pour être très concret, Christian Kerté, oui. Là, on sent le centriste qui n'a pas forcément envie de prendre position. Fillon Copé disqualifié pour 2017, selon vous ?
Non, pas forcément. Non. Pas forcément, parce que l'histoire nous apprend que même ceux dont on a dit qu'ils étaient très très bas dans les sondages pouvaient revenir. Souvenez-vous de Jacques Chirac en 95. Il n'y a pas grand monde qui aurait mis un euro, enfin un franc à l'époque sur cette candidature. Bon, on peut remonter, on peut... Jean-François Copé, il est pour l'instant à la tête du parti et il peut en faire une vraie machine pour un candidat, lui ou d'autres. Et quant à François Fillon, bon, bien sûr, il a sa réalité, il a son succès, enfin ses réussites en tant que premier ministre.
Le cahier des charges, c'est quoi finalement pour Jean-François Copé, par exemple, puisque c'est votre leader
Oui, mais je m'intéresse heureusement à quantité d'autres...
Oui. Le cahier des charges, c'est quoi? C'est gagner les municipales, récupérer le Sénat, et oui. C'est peut-être beaucoup quand même.
C'est une étape après l'autre. C'est quand même, dans un premier temps, réussir notre rôle d'opposant. Voilà, je crois que c'est ça qui est vraiment essentiel. C'est ça qu'on attend de nous. Quand on parle des présidentielles de 2017, personne ne nous écoute. En revanche, lorsque nous évoquons les dossiers du moment, certains errements, des dysfonctionnements, les couacs, bon, là, nous sommes entendus. On attend de nous que nous soyons les opposants. L'alternance, c'est pas tout de suite. En revanche, il y a des élections, vous avez raison, il y a des élections municipales, régionales, etc. Bon, on ne sait même plus trop dans quel contexte elles se passeront, parce que il ne vous a pas échappé que les socialistes sont en train de tout changer dans toutes les élections. Et donc, on verra bien.
À part les départementales, on reviendra là-dessus. Ah ben, les départementales, pour les municipales, elles vont se passer comme elles devraient se passer. Hein.
Les municipales, oui, et ben là, on ne peut plus changer. Nous sommes dans l'année qui précède.
Michel ?
Avant d'arriver sur un ou deux dossiers et puis des questions plus locales, mettons qu'on soit au salon de l'agriculture, alors ne verrons plus jamais Nicolas Sarkozy, c'est terminé. Il y a sans arrêt à l'UMP, il y a eu les amis de Nicolas Sarkozy qui sont réunis, enfin, il y a ce fantasme-là de retour, vous dites non, il faut regarder devant,
Moi je dis que ça appartient à Nicolas Sarkozy, la riposte de Hollande, je pense que bon, c'est une riposte comme ça. Je ne lui prête aucune importance particulière. Bon, en revanche, c'est vrai qu'il y a toujours chez certains le désir, d'ailleurs, de voir revenir Nicolas Sarkozy.
Vous êtes très prudent, pas de devoir d'inventaire.
Non.
Le débat sur l'identité nationale, c'était une erreur.
Pardon ?
Le débat sur l'identité nationale, par exemple, c'était une erreur ?
Ah oui, c'était une erreur parce qu'il a été très mal mené. Oui, ça c'était... une opération qui conduisait à ce que je déteste, c'est-à-dire à braquer les gens les uns contre les autres.
Donc vous êtes adepte du droit d'inventaire, chose qui est assez mal perçue.
Écoutez, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait avancer beaucoup les choses. Hein. Donc moi je suis pour...
Le Fouquet.
Je suis pour être dans l'actualité. Et puis je pense qu'il faudra un vrai bon projet, parce que je crains vraiment... que la France qui sera laissée à partir de 2016 pour le temps d'élection soit une France où on aura continué à perdre, hélas, beaucoup d'emplois, où les problèmes économiques se seront aggravés et où l'état de la société ne se sera pas améliorer.
Michel Dernière Léon. Question en cuisine UMP, des élections, après tout ça, à l'automne, semble-t-il, ça paraît moins au programme aujourd'hui à nouveau pour désigner le président. C'est enterré, ça va être enterré.
Alors, c'est pas enterré, c'est pas enterré, mais on sent bien monter du terrain, c'est-à-dire des territoires français, des départements, etc., une revendication des élus locaux ou de candidats à des élections municipales qui nous disent, écoutez, tout ça est très gentil, mais vous devriez peut-être en rester là. Vous avez fait une équipe nombreuse de responsables. Ils ont qu'à s'entendre entre eux. Ne nous mettez pas des élections internes qui vont forcément un peu nous diviser à quelques mois d'une élection municipale qui est toujours l'occasion de grands affrontements. Donc l'interrogation demeure. Moi, je suis de ceux qui verraient très volontiers qu'on porte ces élections immédiatement après les municipales, c'est-à-dire quelques mois après, pour fiche la paix aux candidats à ces élections
Michel
municipales.
Guéron. Alors, un dossier, le cumul des mandats, c'est une des promesses de François Hollande, et puis c'est difficile, le PS est très 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 divisé, le Conseil d'État s'est prononcé pour un report en 2016, et ça semble arranger pas mal de monde dans les rangs du Parti Socialiste. Le cumul des mandats, c'est une réforme qui semble attendue, souhaitée par les le non-cumul, hein, par les Français. Votre avis là-dessus, à droite, on est plutôt favorable en général.
On est favorable au non-cumul ou au cumul ?
Au cumul.
Au cumul. Alors, et oui, et il se trouve que je suis en situation très atypique, puisque moi je suis favorable au non-cumul des mandats. J'ai abandonné toute velléité municipale, parce qu'à un moment j'ai réalisé que si j'étais classé parmi les...
Alors c'est intéressant, Christian Kert, vous avez abandonné, vous en êtes à votre sixième mandat, on l'a dit tout à l'heure, oui, de député. Mmh. C'est ce qui caractérise un petit peu les femmes et les hommes qui font de la politique dans le Sud. En tout cas, c'est des mandats très longs. Vous en êtes à votre sixième. Là, vous venez de dire que vous abandonnez toute velléité municipale à Salon ou partout ?
J'ai abandonné mes velléités municipales à Salon de conduire des listes. J'ai pas dit que je ne voulais pas être dans une liste ou que ce soit, d'ailleurs. J'ai dit que je ne voulais pas, à ce moment-là, j'ai opté pour un mandat unique, en me disant, finalement, je crois que je fais plutôt bien mon métier de député, et si je le fais bien, le constat, c'est que je ne suis pas obligé de gérer jour par jour une municipalité, une collectivité territoriale ou autre, et donc j'ai opté pour cela. Je suis très attentif à ce qui va se passer sur cette notion de non-cumul des mandats, parce qu'il y a plusieurs formes de non-cumul des mandats. Est-ce qu'elle est totale ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut être que député et rien d'autre ? Est-ce qu'on peut être député et conseiller général, conseiller régional ou adjoint au maire ?
Vous, votre point de vue, c'est député, un seul mandat, avec un statut de l'élu ?
Moi, c'est, pour moi, le bon mode de fonctionnement du non-cumul des mandats, mais je suis un peu isolé dans mon propre camp là-dessus, enfin, c'est être parlementaire et pouvoir être conseiller général, conseiller régional, adjoint au maire, mais ne pas pouvoir présider un exécutif.
C'est ce que dit en gros Bruno Le Maire sur une radio d'ailleurs, qui s'est dit favorable à une réforme pour justement un mandat
nous
national.
Nous avons parfois des avis communs avec Bruno Le Maire aussi.
Le fait que les socialistes l'aient promis pour 2014 et finalement l'appliqueraient en 2017, peut-être ?
Oui, c'est la vieille machine socialiste, on promet, on fait des annonces et puis après on rétrograde à fond les manettes, donc pas de surprise particulière. Mais en revanche, je crois que c'est Manuel Valls qui a eu raison de mettre l'accent sur une question essentielle. Si on veut régler le problème, il faut permettre à des parlementaires sortants de choisir. Donc il faut le faire en 2017. Ça évite en 2016 d'avoir une pléthore, avant 2016, d'avoir une pléthore d'élections législatives partielles. Ça serait une mini-dissolution. Je crois que le pays ne peut pas s'offrir ça. Donc que ce soit en 2017, très bien. Ce qu'il y a, c'est que c'était plutôt promis avant. Et là, on se rend compte qu'on a fait un peu dans de l'artisanat.
Ça va permettre à certaines de respirer. Autre sujet qui a secoué un petit peu la France et qui a permis à l'opposition dont vous faites partie de s'exprimer, des fois à tort et à travers, vous me direz ce que vous en pensez, c'est le mariage pour tous. Vous étiez mandaté pour rédiger un contre-projet. Vous étiez favorable à un Pax amélioré, l'amélioration. Et in fine, vous avez voté contre ce texte qui a été adopté par 329 voix contre 229. Oui, voilà. Oui. Pourquoi ?
Sur ce mariage, moi j'étais favorable non pas à un Pax amélioré, le Pax étant plutôt quelque chose d'administratif, j'étais favorable à ce qu'on appelle l'union civile. C'est-à-dire un mariage que vous pourriez qualifier de bis, une cérémonie en mairie, avec des termes et des articles du Code civil qui s'appliquent à l'unicité de sexe.
Christian Kert, ça c'est de la liturgie, ça, c'est pas...
Non, c'est pas de la liturgie. Pourquoi ça serait de la liturgie ? J'allais, dans cette union civile, jusqu'à faire ce que font les socialistes avec le mariage, c'est-à-dire autoriser l'adoption. Donc on n'est pas dans la liturgie, on est dans le pratique. Un, on fait une union civile, c'est-à-dire union, c'est important de se dire union pax, et c'est difficile. Bon,
Tandis que si c'est union, c'est important, on peut dire mariage également. Enfin.
Non, parce que le mariage, de tout temps dans nos sociétés, et pas seulement judéo-chrétiennes, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Bien, c'est la nature, c'est tout ce que vous voulez, on peut le contester, mais c'est l'histoire. Alors, pourquoi j'ai voté contre ? Un, parce qu'on n'a pas retenu...
Juste avant, si vous le permettez, juste avant de donner votre réponse, parce que ça a interpellé beaucoup de monde, le fait que vous étiez plutôt favorable au départ et qu'à l'arrivée, vous avez fait partie de ceux qui ont voté non. Je rappelle que toute l'UMP n'a pas voté non. Bruno Le Maire, vous le citiez tout à l'heure, Kosciusko Morizet, que vous allez inviter, eux ont voté oui. Il y a une personne qui a voulu vous poser une question, c'est Suzanne Ketchian, qui est vice-présidente de l'association lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, des Bouches-du-Rhône. Donc, elle a voulu vous poser une question sur cette problématique.
Bonjour, monsieur le député. Je suis Suzanne Ketchian. Je suis présidente de l'association LGP Marseille. Et je profite de cette occasion pour vous poser une ou deux petites questions concernant votre positionnement sur les questions de droit, de mariage pour tous, d'adoption et de PMA. Vous êtes... jusqu'à présent, vous aviez plutôt un positionnement de droite, mais plutôt démocratie chrétienne, on va dire, modérée. Vos dernières positions semblent s'être radicalisées. Et ma première question serait de comprendre le fondement de cette radicalisation de votre position. S'agit-il, excusez-moi, de la mode, d'un phénomène de mode, d'un phénomène électoraliste, opportuniste? Ou s'agit-il plutôt d'un fondement idéologique, ce qui me paraîtrait à ce moment-là un petit peu décalé avec ce de quoi vous êtes issu?
Voilà, Christian Kert, donc la question de Suzanne Ketchian, conviction ou pragmatisme, comme on le disait tout à l'heure, parce que selon ces termes, c'est à la mode.
Il n'y a pas d'effet de mode là. Je crois que ce qui est important... Qu'on sache bien, c'est que les parlementaires, ils ont voté vraiment en conscience, à droite comme à gauche, hein, et au centre. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté majeure. Moi, je tenais beaucoup à mon idée d'une union civile. Et je tenais beaucoup à cette union civile parce que il me semblait que si on passait cette idée-là, on pouvait passer... très facilement, y compris dans les rangs des opposants, c'est-à-dire de l'UMP, on pouvait passer l'idée qu'à cette union civile, on arrimait l'idée de l'adoption. Car moi, l'adoption, moi je connais bien le monde de l'adoption, j'ai adopté une enfant, donc je sais ce que c'est que l'adoption. Et je me disais, il y a quand même une ambiguïté, si on n'autorise pas des couples homosexuels à adopter un enfant, alors que... l'un des membres de ce couple vivant isolé peut adopter. Et donc je disais, un, faisons l'union civile et permettons l'adoption. Mais je m'arrêtais là. C'est-à-dire que je n'allais pas jusqu'à la PMA et jusqu'à la GPA.
La gestation pour autrui.
La gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses, pour faire schématique. Parce que j'ai le sentiment que là, nous dérivons du désir d'enfant vers la marchandisation d'enfants. Car moi, si on me dit qu'on trouve normal qu'un couple d'homosexuels masculins parte dans un des pays où c'est autorisé, disons le Brésil, et aille acheter à une mère un enfant, moi, je trouve que là, on va sans doute un peu trop loin.
Enfin, je rappelle quand même que le gouvernement a dit affirme en tout cas qu'il n'a pas autorisé ça.
Oui, mais en plein débat, Madame Taubira a laissé sortir une circulaire qui permettait de faire d'un enfant né là-bas d'un couple homosexuel un sujet français dès l'instant où il revenait. Ça veut dire quoi, quand même ? C'est pas que ça lui a échappé, c'est que nous mettons en marche. Je vous rappelle juste que Mme Guigou, au moment du Pax, avait dit « Le Pax, c'est rien que le Pax, c'est jamais le mariage ». Bon, là, on nous dit « Bon, pas la PMA, on n'ose pas ». Et la GPA, non, ça fait peur. Ça fait peur, mais pourquoi on refuserait la GPA si on autorise la procréation médicalement assistée aux femmes homosexuelles ? Bon, je crois que cette interrogation ne m'a pas permis de m'abstenir, car j'avais effectivement envisagé de m'abstenir, mais cette interrogation à laquelle Mme Taubira n'a jamais répondu pendant le débat ne m'a pas permis de m'abstenir et donc de donner satisfaction à des personnes comme votre auditrice qui ont été attentives, et je l'en remercie, au fait que j'avais un vrai positionnement humaniste et pas du tout homophobe dans ce débat.
Est-ce que l'opposition, malgré tout, n'est pas tombée dans le panneau qui a été construit à son intention ? Le gouvernement, le changement, c'est pas toujours pour maintenant, c'est pas facile, les questions sociales, les questions économiques, donc on sort un sujet de société clivant, qui permet de bien dire où est la droite, où est la gauche, ça fédère chaque camp, et Vlan, est-ce que là, l'UMP ne s'est pas ringardisé comme à l'époque du Pax, avec, sur ces questions de société, alors que des évolutions font que les gens sont prêts à bouger ? Est-ce que c'était pas un piège ? Est-ce que c'était pas...
C'est pas un piège pour l'opposition, c'est un piège pour l'opinion française. C'est-à-dire que pendant quelques semaines, effectivement, on a fait dériver le débat national, économique, essentiel, sur un autre sujet que peu de personnes attendaient, d'ailleurs. Mais nous avions conscience de ça.
C'était une promesse de...
Oui, c'était une promesse, mais très très franchement, en ce début d'année 2013, quand vous pensez que nous perdons probablement ces temps-ci 1 millier d'emplois par jour. Je ne suis pas persuadé que la préoccupation essentielle de la française ou du français moyen, ce soit de savoir si on permet ou pas à quelques couples homosexuels de se marier. Je crois qu'en ce moment, on est dans un climat anxiogène et nous, ce qu'on aimerait, c'est aider à répondre à cette inquiétude.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille, avec nous aujourd'hui Christian Kert, député de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône.
Alors, on vient à des sujets plus locaux. Il n'y a pas que le cumul des mandats, la réforme du cumul des mandats qui a été repoussée. Il y a aussi la création d'une métropole. Elle a été annoncée en 2014. On parle maintenant de 2016 et on verra. Et puis finalement, cette métropole du Grand Marseille, tout le monde finalement semble plus ou moins se réjouir qu'elle soit reportée. Sauf que vous y êtes favorable en fait, c'est ça ? Et pourquoi ?
Tout à fait.
Je rappelle que ce projet de grande métropole pour les auditeurs engloberait également Aix-en-Provence.
Oui.
Si ça se fait,
ce serait Marseille-Aix, en quelque sorte. Avec des Aixois qui aimeraient que ça s'appelle Aix-Marseille et pas Marseille-Aix. Hein. Ça, c'est la vieille querelle entre les Romains des termes d'Aix et les Grecs de Marseille. Bien. Moi, je suis favorable à cette idée de la métropole. Parce que depuis des années et des années, sous couvert d'ailleurs souvent de décentralisation, on a rajouté des tranches au millefeuille de l'administration française. Et qu'aujourd'hui, entre les communes, les intercommunalités, les syndicats intercommunaux, puis le département, la région, le parlement, le gouvernement, bon, il y a des compétences qui se chevauchent en permanence et que... Alors que, par exemple, les intercommunalités avaient été créées pour faire des économies, ça n'a pas permis de faire d'économies. Et que maintenant, vous avez des gens qui vont taper à la porte de la région, du Conseil général. Bon, on ne sait plus bien. Et dans mon esprit, la métropole, ça permet de mettre le pays en ordre de marche européen. Il me semble que nous avons besoin de grandes régions fortes et que nous avons besoin d'identités territoriales fortes. Le Conseil général... Bon, qui est une belle invention au moment où on avait besoin que les préfectures soient proches, qu'il y ait des élus vraiment territoriaux de tout petit territoire. Tout. Il me semble que c'est une notion un peu dépassée. Et cette notion de métropole où des villes aident les plus petites à monter en puissance, à s'adapter à la vie de leur territoire, au développement durable des territoires, me paraît une belle idée. Encore faut-il bien entendu qu'elle se fasse dans le respect des identités, car les Françaises et les Français sont très attachés. Alors, à leur mairie.
Christian Kert, s'il vous plaît, on ne va pas utiliser la langue de bois, on ne va pas parler par litote. Ça veut dire quoi, les identités? Quelle est l'identité d'Aix-en-Provence? Ça ne veut strictement rien dire. L'identité, non. Ça ne veut rien dire.
On ne peut pas empêcher que...
Vous avez des Aixois, la majorité des Aixois travaillent à Marseille.
Bien sûr, mais on ne peut pas empêcher qu'on se sente Aixois comme on se sent Marseillais, parce qu'on est là et que ça a un esprit particulier. Ce n'est pas les mêmes villes. Bon, Marseille et Aix, nonobstant la présence de la mer, c'est pas la même conception de la cité. Il y en a une qui a 800 000 habitants, il y en a une autre qui en a 140 000, il y en a une, Aix-en-Provence, qui est vraiment orientée vers sa culture, vers son patrimoine, vers son histoire, vers un art de vivre qui lui appartient. J'ai coutume de dire vers une sorte de génie de vivre Aix, et les Marseillais...
Là, vous êtes déjà presque en campagne pour Aix-en-Provence.
Vivent ça, et les Marseillais vivent ça différemment. Mais... je crois que ça peut complètement se dépasser, ça. Et je crois qu'on peut mettre en commun. Et on a besoin de mettre en commun. Entre Marseille, Aix et Vitrolles, par exemple. C'est un désastre, les transports en commun. C'est un désastre. On me dit, il y a des navettes bus incessantes. Oui, d'accord. Mais les navettes bus, elles se trouvent dans les mêmes embouteillages que si vous prenez votre voiture. Donc vous prenez autant de retard. S'il y avait une métropole, autre exemple, les rives de l'étang de Berre. Demain, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y aura plus de pétrochimie. Ça ne sera plus une plateforme de pétrochimie. Aujourd'hui, personne ne se sent responsable de la réflexion des rives de l'étang de Berre. Si cette métropole est destinée à aller de Marseille à Aix, d'Aix à Salon de Provence et sur les rives de l'étang de Berre, eh bien, immédiatement, on réfléchira à ça. Et moi, je crois qu'il faut faire des rives de l'étang de Berre un grand centre pour les énergies renouvelables. Il y a l'espace, il y a l'exemple de l'étang de Berre que l'on veut revitaliser, il y aurait des installations utilisables, il y aurait une modernité dans l'idée de cette métropole à porter un vrai projet fédérateur. Je crois à la métropole.
Une Marie Joassin dit par exemple, en substance, Aix n'a pas vocation à aller secourir Marseille en déshérence. Aix, qui a plutôt la chance d'avoir des ressources importantes, n'a pas à venir accueillir les pauvres des quartiers nord de Marseille. Vous répondez quoi?
Alors, je réponds que ça, c'est une vision effectivement très, très locale. Nous ne sommes pas en accord avec Maryse Joassin, on l'a exprimé sur plusieurs tribunes. Moi, je pense que la métropole bien vécue, avec des compétences bien déterminées, elle n'est pas destinée à s'appauvrir au bénéfice de Marseille. Je pense qu'il y a une mise en commun. Alors, je crois que Marie-Lise Lebranchu, qui a beaucoup de volontarisme dans ce dossier... elle a commis une petite erreur, c'est de laisser penser que toutes les compétences allaient être mises brutalement en commun, qu'on allait supprimer le droit de fiscalité sur aux maires pour leurs communes, qu'on allait leur lever l'usage des sols, etc. Bon, donc là, c'est un peu brutal. Il y a peut-être une difficulté particulière, c'est que par rapport à Aix, effectivement, Marseille, plus grande, Marseille, capitale régionale, elle a moins d'argent au prorata que ce qu'on en a Aix-en-Provence. Donc on peut comprendre. Mais je crois qu'il faut dépasser tout ça. Et pour aider à dépasser ça, moi je vais essayer de faire un peu de pédagogie. Je vais essayer de faire venir des patrons de métropoles qui marchent, françaises ou peut-être une ou deux à l'étranger, les faire venir à Aix ou à Marseille, peu importe, mais plutôt à Aix parce que les réticences sont fortes de ce côté-là, pour dire si ça marche là, à Nice, à Lyon, à Barcelone, pourquoi ça ne marcherait pas dans un territoire aussi économiquement important que celui de Marseille?
Et si la problématique, si le véritable problème, c'était pas les personnes, si finalement Marie Joissin, les maires de l'ouest de l'étang de Berre n'ont pas confiance dans les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques de Marseille. Et là, on arrive à un phénomène qu'on appelle le clientélisme. Marseille est souvent caractérisé par ça. Il y a les affaires également. Jean-Noël Guérini, président du Conseil général, est convoqué chez le juge le 5 mars. Des députés, Sylvie Andrieux par exemple est convoquée elle le 4 mars. Ce climat des affaires, ce climat de clientélisme, c'est pas ça qui fait réfléchir les maires, qui les fait hésiter? Parce que finalement, cette grande métropole, si elle se fait, le patron sera forcément marseillais.
Oui. Mais pour l'instant, la réticence de Maryse Joassin ne peut pas s'exprimer en ces termes, puisque son homologue à Marseille s'appelle Jean-Claude Gaudin.
C'est pas gêné.
Et pour autant que je sache, nous sommes tous dans le même navire politique.
Mais c'est sous-entendu, d'après vous, Christian Kert ?
Je n'ai pas ressenti ça. Je ressens ça, je ressens ces réticences à l'égard du personnel politique impliqué dans des affaires de la part de la population. Bon, de la part des élus locaux, ça ne leur plaît pas sûrement, mais je ne pense pas que ça se reporte sur la métropole. Bon, le président de la communauté urbaine de Marseille n'est pas impliqué dans les affaires n'est pas impliqué dans les affaires que vous évoquez. Donc il n'y a pas, à cet égard-là, quelque chose qui se cristalliserait. Moi, j'ai le sentiment que, comme chaque fois que l'on doit toucher à une réorganisation territoriale, on touche au cœur de la démocratie, parce qu'on s'identifie aux maires. Et là, les maires ont eu le sentiment que l'essentiel de ce projet, c'était de leur lever des pouvoirs sans compensation.
Alors comment vous pensez, c'est quoi? C'est une défaillance intellectuelle? Comment vous expliquez qu'à Lyon, ça marche très bien, à Lille, ça marche également, Bordeaux,
mais,
ça marche?
Mais, moi, je pense que ça doit marcher, et je pense que ça marchera ici. Bon, ici, on a besoin de la loi. Pour mettre tout le monde d'accord, il faudra une loi. Et je suis intimement persuadé que ça peut fonctionner, car ce territoire est quand même intéressant, important, il a des richesses qui lui sont propres, donc ça peut fonctionner. J'en suis un ardent propagandiste, c'est pas très facile pour moi, parce que la plupart des élus locaux n'y sont pas favorables, Madame Le Branchu n'est pas a priori l'une de mes amies politiques, néanmoins je lui ai indiqué que je défendais son projet, tout autant bien entendu qu'on revoyait sur les compétences et qu'on faisait en sorte qu'on monte en graduation sur le nombre et la qualité des compétences qui deviendront obligatoires dans la métropole.
Pour répondre aux inquiétudes de ceux qui craignent la création d'une structure très technocratique, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont favorables à l'élection directe, peut-être, des représentants qui siégeraient au sein de cette métropole? Est-ce qu'il n'y a pas un souci d'éloignement par rapport à une volonté de proximité avec la création de ce genre d'organes.
Alors, moi, je trouve l'idée intéressante, sauf que je redoute qu'on puisse penser que sous couvert de métropole, on crée un échelon électoral supplémentaire. C'est-à-dire, on va nous faire voter pour une structure et
Est la vraie structure, qui deviendra en tout cas la vraie structure.
Qui parce deviendra la vraie structure.
Voter pour les municipales n'a pas grand sens, en définitive.
Oui, mais alors, si on part en disant ça, là, on est mal pour défendre la métropole, parce que quand même, le premier échelon pour nos concitoyens, c'est vraiment le maire. Est-ce qu'il faut doubler par le suffrage universel, donc pour la métropole? Je n'ai pas arrêté, franchement, ma religion là-dessus. Elle m'intéresse, l'idée, elle m'intéresse, mais je redoute cet a priori.
Alors, je repose la question, on a parlé des affaires, mais c'est vrai qu'il y a une conjonction Sylvie Andrieux, Jean-Noël Guérini devant le juge,
Jean-David
Ciot aussi, député d'Aix-en-Provence, qui est convoqué chez le juge. Votre réaction là-dessus
Ma première réaction, c'est que je note que tous les gens que vous me citez sont plutôt à gauche, pour ne pas dire vraiment à gauche. Et que fort heureusement...
Socialiste, exactement. Parti socialiste des Bouches-du-Rhône.
Fort heureusement, vous n'avez pas de nom UMP ou centriste à me citer.
On aurait pu, Christian.
Mais Kert. Non, vous auriez été obligé d'aller chercher dans l'histoire, et non pas dans...
Dans l'histoire récente.
Dans l'actualité.
La campagne de Renaud Muselier, qui a été entendue chez le juge.
On n'est quand même pas dans les mêmes échelons. Hein. On n'est pas dans la graduation. Bon.
Soyez plus explicite. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème au sein du Parti Socialiste?
Oui, moi je crois, oui, je suis tout à fait explicite. Je pense que le Parti Socialiste des Bouches-du-Rhône a eu un véritable problème que, en plus, ses leaders nationaux ont dénoncé, et que je pense qu'à un moment, il faudra quand même un peu restructurer tout ça pour que l'image, un, soit meilleure, et puis, deuxièmement, que nous rentrions dans une vision quand même de très grande honnêteté, de transparence de la vie politique, parce que je crois que c'est essentiel.
Alors pourquoi cette discrétion, Christian Kert? Vous êtes député, vous avez une audience nationale, vous avez accès aux médias. On a vu un Renaud Muselier qui se battait plutôt tout seul.
à peine soutenu par sa majorité. Pourquoi ne pas en faire un sujet au niveau national et dire, voilà, il n'est pas normal que le président du Conseil général, par exemple, qui est également sénateur, puisse comme ça faire la une de tous les journaux en France pour des affaires qui sont relativement graves, ces complicités d'associations de malfaiteurs.
Tout à fait. Vous avez bien réalisé combien il est toujours difficile de s'exprimer alors qu'on nous rétorque quelque part à juste titre, puisque j'ai fait du droit, la présomption d'innocence. Donc on est toujours, nous, les politiques, partagés. C'est pas du tout que nous voulons nous cacher ou cacher ce que font d'autres, c'est que je crois que c'est toujours délicat tant que la justice doit faire son œuvre. Ce que je regrette d'ailleurs, c'est que ça n'aille pas plus vite du côté de la justice, parce que Jean-Noël Guérini, maintenant, ça fait un moment qu'on parle de cette affaire de Jean-Noël Guérini, il est toujours là, il a le droit d'être là d'ailleurs, président du Conseil général et sénateur. Et à un moment, j'aimerais que la justice tranche pour qu'on sache bien où on en est. Où vous avez peut-être raison, c'est que ce silence que nous observons peut donner le sentiment d'une sorte de complicité, c'est-à-dire n'allons pas réveiller des querelles. Bon, moi je m'interdis ça, je ne dois rien aux socialistes en place, donc je peux effectivement faire part de mon regret de ce spectacle.
Pourquoi ne pas avoir déposé un projet de loi stipulant le fait que quand un président de collectivité est mis comme ça sous les feux de l'actualité pour des raisons judiciaires, il ne puisse pas, il ne doive pas abandonner ses mandats quitte à les récupérer. Après.
Ben alors là, là il y a interférence avec la justice. Alors on est bien obligé quand même, il y a une justice, on est bien obligé de laisser aller la justice. Que immédiatement après une décision, oui, ça devienne extrêmement droit, ferme, oui. Bon, pour le reste, ça me paraît quand même un peu difficile, sauf à dire, bon, ben, le politique se substitue à un moment à la justice, quoi. Bon, donc, je suis pas mal à l'aise là-dessus. Je pense que là, on n'a pas à interférer. En revanche, il faut que nous soyons beaucoup plus drastiques dans nos formations politiques pour que dès que quelqu'un pose un problème avec la justice, bon, il soit mis à l'écart, qu'il puisse pas se présenter à de nouvelles élections. Ça, oui.
Alors, l'émission approche de sa fin. Vous êtes intéressé à la politique, évidemment, aux médias aussi, on l'a dit au début. Et il y a un homme très, très particulier à double titre, Bernard Tapie, qui entre dans le monde médiatique en devenant actionnaire de La Provence, Var Matin, Nice Matin, les journaux du sud du groupe Hersant. C'est très commenté. Un homme qui a été en politique à Marseille et qui dit qu'il ne veut pas y revenir, mais il y a été. Votre avis là-dessus, ce personnage, Bernard Tapie, à la tête de ce journal ?
Écoutez, on s'est beaucoup interrogé donc au sein du groupe des parlementaires qui s'occupe de la presse écrite, hein, puisque il y a un groupe de parlementaires animé par le député socialiste Marcel Rogemont qui s'occupe de presse écrite. Quand les nouvelles ont commencé à tomber, on s'est collectivement beaucoup interrogé. Beaucoup semblent penser que Bernard Tapie, il achète ses titres pour un autre combat, celui des municipales. Ce n'est pas mon avis. J'ai le sentiment que Bernard Tapie, il avait quelques comptes à régler ici et que avoir un journal, ça lui permettra peut-être de se libérer d'un certain nombre de frustrations qu'il a pu emporter de son passage ici. Je pense qu'il commettrait une erreur de partir au municipal parce qu'il donnerait le sentiment de n'avoir acheté les titres que pour ça. Or, je crois qu'il y a autre chose. Je crois qu'il y a d'abord cette présence à Marseille qu'il a dû vouloir re-signifier. Et deuxièmement, il y a peut-être une passion de cet homme qui approche, je crois, les 70 ans pour réussir quelque chose qui soit extrêmement médiatique, un domaine où on ne l'attendait pas. Il me semble qu'il y a un défi pour cet homme-là. Alors, on peut le condamner, on peut aimer, ne pas aimer. Bon, moi, je ne suis pas très favorable à l'idée de cette commission d'enquête parlementaire, parce que je ne sais pas bien ce que les parlementaires doivent dire là-dedans. Il s'agit de l'argent privé de Bernard Tapie qui achète des titres privés. Et donc, je ne sens pas bien...
Il va examiner les conditions de légalité dans l'appel d'offres et la façon dont
il a pas eu de plainte de part et d'autre. Je n'ai pas entendu une partie lésée. Et donc, je me dis, est-ce que nous, les parlementaires, nous devons forcément nous immiscer dans quelque chose de privé.
Et, Et pour reprendre votre expression, vous, parlementaire, vous trouvez normal qu'un homme rachète des journaux pour passer sa frustration, selon vos mots ?
Non, pas du tout. Je tente d'expliquer qu'est-ce que peut être le moteur, qui n'est sûrement pas qu'un combat municipal à venir. Je me dis, bon, il a bien fallu un moteur. Et je suis en train de vous expliquer quelque chose de plus noble, qui est de
celui... C'est prudent aujourd'hui de critiquer Bernard Tapie, patron du principal quotidien de la région ?
Écoutez, il faut qu'on se dise les choses, hein, sinon c'est pas la peine. Bon, moi, je rêvais plutôt d'un autre patron pour la Provence, parce que je rêvais d'un grand patron de presse. Bien, c'est Bernard Tapie. Bon, c'est son argent. Il achète ce titre qu'il veut bien se laisser acheter. À partir de là, je le respecte. Je vous dis pas que j'aime ou que j'aime pas le personnage. Je vous dis, je le respecte. Et j'avais averti à l'origine que j'aurais vu plutôt un autre groupe de presse que le groupe industriel de Bernard Tapie le rachetant.
Christian Cadre, vous dites que c'est son argent. Il y a justement aussi la justice, on revient à la justice, qui enquête sur les conditions de la heureuse fortune de Bernard Tapie, à savoir les 400 millions d'euros qu'il a gagné dans le contentieux avec le Crédit Lyonnais. Vous pensez aussi qu'il faut regarder de près ce qui s'est passé
Et là, c'est le contribuable qui directement les...
Il s'agit d'argent public.
Très bien, alors que la justice effectivement passe, parce qu'elle est saisie, ou elle s'est saisie, et qu'elle passe. Est-ce que nous avons, nous, parlementaires, à nous emmêler au prétexte qu'il s'agit d'un homme politique ? Je ne suis pas persuadé. Si demain, il devait se révéler quelque chose de scandaleux, oui, je veux bien. Mais quand des socialistes ont pris l'initiative de demander une commission d'enquête parlementaire, très franchement, ça m'a un peu surpris. Il me semble que c'est allé peut-être vite en besogne.
Christian Kert, comme le disait tout à l'heure Michel Guéraud en introduction, puisqu'on arrive au terme de cette émission, vous avez ouvert une permanence à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, terre de mission pour Christian Kert ou point de chute définitif pour une municipalité? On a vu que Mme Joissin avait des difficultés. Peut-être qu'elle allait peut-être devenir inéligible. Vous êtes tenté par 2014?
Écoutez, Aix-en-Provence, terre d'élection pour Christian Kert, oui, puisque de tout temps d'ailleurs. Le grand canton d'Aix-Sud-Ouest a fait partie de ma circonscription. Donc je n'y suis pas nouveau. En revanche, c'est vrai que ma circonscription avant comportait le pays de Salon de Provence et que j'y tenais permanence.
Que vous avez abandonné?
J'ai dû laisser... Oui. On a découpé ma circonscription. Et ce qui m'amuse, c'est qu'on dit que lorsqu'on est dans la majorité, on vous découpe des circonscriptions faciles. Accordez-moi, quand mon ancienne circonscription et celle-ci, l'ancienne était beaucoup plus facile. Néanmoins, je suis parti au combat, je l'ai emporté et je me trouve très installé à Aix-en-Provence. À la question des municipales, moi, je suis là pour que Aix-en-Provence reste à droite, si possible à l'UMP. Pour ce faire, je suis prêt à aider Mme Joissin. Ça peut prendre quelque forme que ce soit.
Si Mme Joissin ne peut pas être candidate ?
Ce que je ne souhaite pas. Si Mme Joissin ne peut pas être candidate, nous réunirons une commission à Paris de l'UMP pour voir comment on peut faire.
Et vous-même, vous seriez candidat ?
Moi, aujourd'hui, je ne suis...
Avec toute la prudence de langage,
voilà.
Que l'on vous connaît...
Plus que prudent, là, dans le cas précis, parce que je vous dis bien mon souhait que Mme Joissin puisse se présenter.
Si en elle revanche, ne peut pas le faire ?
Elle aura besoin de moi, j'en suis persuadé, parce que je représente quelque chose d'autre. Nous ne sommes pas toujours sur les mêmes pôles d'intérêt, nous sommes complémentaires, de personnalité d'ailleurs. Et donc, je suis là pour l'aider... Je ne suis pas là pour la concurrence.
Vous êtes quand même un centriste curieux, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas de soutenir des gens qui défendent des idées qui ne sont pas les vôtres. Coupé, Joissin n'est pas au centre, elle est à la droite, c'est une droite musclée. Et encore une fois, vous vous rangez derrière elle. Alors qu'est-ce qui se passe ?
Je me range derrière elle et j'étais en train de vous dire, je suis là pour l'aider, je ne suis pas concurrentiel, mais si je l'aide, c'est pour apporter quelque chose de différent. Je vous disais, nous sommes complémentaires et je veux apporter... Quelle que soit la forme de cet apport, je veux apporter quelque chose de différent parce que Aix-en-Provence, ville extraordinairement culturelle, et pour un garçon comme moi qui adore la culture, le patrimoine, il y a peut-être quelque chose à jouer,
donc,
un apport particulier.
On arrive au terme de cette émission, Christian Kert. Donc Christian Kert, député, au service de ses amis de l'UMP, mais éventuellement candidat en 2014 si Marie Joissin ne se présente pas.
C'est pas moi qui ai dit ça.
Mais c'est moi qui le dis. Je vous remercie. Allez, à bientôt.